Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas vu certains d'entre vous. J'étais en visite synodale dans le Tarn, dans les églises de Vianne et de Vabre, et ils ont tenu à ce que je vous transmette leur salutation. Des églises évangéliques libres de Vianne et de Vabre, perdues au fin fond du Tarn, des églises rurales et infiniment sympathiques. Et on a passé du temps à s'encourager les uns les autres. C'est bien ces visites synodales, on a reçu la visite synodale du pasteur de Lyon, Frédéric Hubeau, et ça fait des liens, Lyon, le Tarn, puis d'autres encore. J'ai été conduit à vous parler ce matin de la prière, avec une question... Avec deux questions, pourquoi prier et pour quoi prier? Que demander dans la prière? Alors, loin de moi l'idée ou l'envie de vous faire la leçon sur vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Chacun est libre de prier comme il veut. La prière est d'abord un dialogue avec Dieu. Et comme le disait le prédicateur et pasteur Alexandre Vinet, la prière est la respiration de l'âme. Alors, pourquoi prier? Ben, parce qu'il faut respirer. Parce qu'il faut que notre intérieur respire. Parce qu'on ne peut pas rester en apnée trop longtemps. Mais pourquoi prier? Pourquoi prier en deux mots? Et il y a dans la Bible des prières qui peuvent nous inspirer. Et j'aime, alors il y a le Notre Père, hein, de Jésus, la prière qu'il nous a apprise à ses disciples et à nous, mais il y a aussi des prières de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul peut nous inspirer lui aussi dans notre vie de prière alors qu'il prie pour ses amis qui sont à Colosse, cette petite église. Malgré son nom, petite église, qui a été implanté par Épaphras, un collègue de Paul. Mais Paul n'a pas implanté l'église de Colosse, il les connaît pas, il les a jamais vus. Mais Épaphras est venu jusqu'à Rome rejoindre Paul, qui est en prison, pour lui donner des nouvelles de l'église de Colosse. Et c'est un passage que j'aime beaucoup, surtout la fin. Vous allez voir. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout et cela avec joie. C'est le passage que j'aime particulièrement. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Et cette prière pour Paul, de Paul pour les Colossiens pourrait être une prière aussi pour nous, tous les Canois et les assimilés. Cela pourrait être une prière pour mes enfants, pour vos enfants, petits-enfants, pour votre conjoint, pour vos parents, pour votre ami et même pour votre voisin qui passe sa tondeuse à tout. Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de tondeuses dans le coin, ouais. Il n'y a pas beaucoup d'herbe. Ça pourrait être une prière pour les amis du Parcours Alpha, avec lesquels on a passé une super journée hier, une journée Alpha, où il y a eu des pas de foi. Est-ce qu'on va prier pour eux? Qu'est-ce qu'ils pourraient prier pour eux-mêmes? Prier pour les jeunes qui se sont rencontrés à Aix-en-Provence avec les autres églises libres de la région PACA. Ils ont passé, m'a dit Marc, une super journée. Ils étaient 25 des différentes églises. Certaines églises n'ont pas pu venir. Mais il y avait Marseille, Aix, Avignon, Nîmes. Et j'en oublie. Que prier pour ces jeunes? Qu'est-ce qui est important pour Paul dans la vie des Colossiens et pour qu'il en fasse un sujet de prière constant. Vous avez entendu, je ne cesse de prier pour vous. On l'a entendu tout à l'heure, je crois, dans le verset que Megan a choisi, il y avait aussi ce prier sans cesse. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps sur les genoux, en train de prier, mais qu'on est persévérant dans la prière. On continue de prier régulièrement. Et le premier de ces sujets se trouve au verset 9. Ainsi, nous lui demanderons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Et donc Paul prie tout simplement pour que les amis chrétiens sachent ce que Dieu veut. Qu'ils puissent développer dans leur sens, dans leur vie, le sens de la volonté de Dieu. Et donc Paul prie pour que les chrétiens de Colosse, ou les jeunes, ou les participants d'Alpha, ou notre conjoint, ou nos enfants, ou nos parents, ou nos amis, ou nos voisins, ils aient une vision spirituelle renouvelée. Pour une vision spirituelle renouvelée. Alors vous vous souvenez de la campagne publicitaire dans les années 70 ? Je suis un enfant de la télé, mais il disait « Au volant, la vue, c'est la vie ». Vous vous souvenez de ça, hein ? Et même chose sur la route de la vie avec Dieu. Sans vision, sans connaissance, mon ami usager de la route de la vie se trouve complètement perdu dans ce monde si complexe qui propose des choix multiples à chaque carrefour de la vie. Au volant de la vie, au volant sur la route de la vie, la vue, c'est la vie. C'est un peu comme dans les sports collectifs, et en particulier le rugby, le plus beau sport devant l'Éternel. Si on n'est pas au courant de la combinaison, si on n'entend pas le talonneur, surtout à la touche, qui dit 115 rouge, on ne sait pas. On ne sait pas où on va, on ne sait pas que faire sur ce terrain. On a beau courir dans tous les sens, il ne se passera rien, sinon la défaite. Et c'est la même chose au volet, vous savez, qui fait des... ou au basket. C'est aussi des sports intéressants. Mais on peut se démener dans la vie. Si on ne sait pas ce que Dieu veut, on va se perdre dans des voies de garage. Il y a Paul qui dit aux Israélites, dans Romains 10, « Ils ont du zèle. Je dois reconnaître qu'ils ont du zèle. » Mais ils manquent de connaissances. Ils manquent de vision de jeu. Et donc la prière de Paul aux Colossiens est tout à fait pertinente pour nous, et elle touche à un point névralgique et stratégique de notre vie et de celle de notre ami, connaître la volonté de Dieu. Et il s'agit pour nous de mettre cette connaissance de la volonté de Dieu comme une priorité dans la vie et dans ma vie de prière pour les autres. Et à l'exemple de Paul, nous pourrions prier pour que nos amis, nos enfants, notre conjoint soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu au lieu de lui dire quelle est la volonté de Dieu pour lui. Ce que je pense être la volonté. Non, la prière, c'est qu'il puisse être rempli de la connaissance de Dieu et de pas essayer de les manipuler pour qu'ils fassent que ce que l'on a envie qu'ils fassent. On est appelé à prier les uns pour les autres pour que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté et que chacun ainsi fasse ses choix et prenne les décisions qu'il doit prendre devant Dieu. Quand j'étais jeune, j'ai acheté un livre, je pense que je suis en train de le donner gratuitement. Il y a quelques livres en bas là, en bas, dont je me débarrasse, je crois qu'il en fait partie, à la découverte de la volonté de Dieu. C'est pas un mauvais livre, mais le titre, sans le dire, ça ressemble un petit peu à la recherche de l'arche perdue, à la découverte de la volonté de Dieu. Ça suggère que la volonté de Dieu serait cachée, comme si Dieu jouait avec sa volonté dans une partie de cache-cache avec nous, ou alors un jeu de pistes avec des énigmes, avec des fausses pistes. Et le but du jeu serait de nous perdre. Non, Dieu est bon et il veut qu'aucun de ses enfants ne se perde. La volonté de Dieu, sa volonté, nous dit la parole, est bonne, agréable est parfaite, on en a parlé souvent, au parcours Alpha. Pourquoi voudrait-il nous la cacher ? Dieu aime communiquer et aime communiquer sa volonté et il désire plus que tout de nous voir suivre sa volonté, que nous puissions être conduits par lui. Et donc marcher selon sa volonté est tout à fait à notre portée. Dieu révèle sa volonté. D'abord dans sa parole, on l'a chanté, ta parole est une lampe à mes pieds, qui est la volonté révélée de Dieu, la Bible, la parole de Dieu. Et le texte de Colossiens nous parle d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Rempli de la connaissance de Dieu et qui suggère fortement que nous ne sommes pas, une fois pour toutes, illuminés, on va dire le jour de sa conversion, mais que nous devons sans cesse être remplis, toujours en train d'être remplis. Et je trouve qu'il y a un bon verbe en français par rapport à la Bible, c'est le verbe imprégner, l'imprégnation de la parole en nous, pour une imprégnation continue de la parole et du Saint-Esprit qui se saisit de cette parole et qui l'imprime dans notre cœur et qui fait forte impression. Être imprégné de la parole de Dieu dans toute sa richesse et sa diversité pour que, devant la multitude des choix de la vie, nous sachions que faire et que nous comprenions l'esprit du jeu. Les commentateurs de rugby disaient parfois « Ah là, il n'est pas dans l'esprit. » Être imprégné de la parole pour être dans l'esprit du jeu. L'esprit avec un grand E. Pour pouvoir jouer dans l'Esprit Saint. Et pour après, s'il faut choisir entre devenir motard ou PDG, s'il faut prendre l'option MPI ou STI, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, s'il faut dormir avec les draps au-dessus ou en dessous de la barbe comme le capitaine Haddock, pour toutes ces questions, un grand principe, la liberté. Car la recherche de la volonté de Dieu n'exclut pas la liberté dans ses choix, cette liberté qu'un père veut donner à son enfant devenu grand, et nous sommes des grands quand nous usons de cette liberté pour faire des choix et prendre des décisions en toute sagesse spirituelle et intelligence spirituelle, un renouvellement de notre vision spirituelle. Voilà le premier pourquoi prier. On peut prier pour chacun de nous puissions être renouvelés dans notre vision spirituelle. Et le deuxième sujet, c'est la vitalité spirituelle. Au verset 10, il est dit « Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme lui, comme fruit, toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. » Moi, je trouvais que ce verset, c'était tous azimuts, là. Des fruits, on plaît à Dieu, on fait des bonnes œuvres. Il y a de la vitalité, heureusement, c'est pas la harpe. Il y a de la vitalité. Et donc, Paul prie pour la vitalité. La vitalité retrouvée, le deuxième V, après vision spirituelle, la vitalité spirituelle, un sujet de prière important, peut-être même urgent, pour que nous puissions retrouver, comme le disait un marchand d'eau de source, retrouver la vitalité qui est en vous. Tout à l'heure, Yvonne a utilisé le mot pour le psaume 23, revigorer, ravigoter. Retrouver la vitalité qui est en vous. Alors on pourrait reprendre toutes les expressions pleines de vitalité, mais je voudrais reprendre la deuxième partie de la phrase qui dit « Marchez dignement », alors littéralement, hein, « Marchez dignement dans le Seigneur en vue de tout sujet de plaisir ». Là, et lui plaise à tous égards, avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. C'est la version du semeur. Mais une autre version disait, cherchez en toute chose le plaisir de Dieu. Et il me semble que cette vitalité spirituelle passe d'une manière ou d'une autre par la recherche du plaisir de Dieu. Alors comment je fais pour plaire à Dieu ? J'imagine qu'il y a bien des façons de plaire à Dieu et même des manières que je n'imagine pas, mais je pensais à la relation père-enfant pour en parler, cette relation que Dieu veut avoir avec nous. Quand mes enfants petits me disaient « je t'aime papa », eh bien je ressentais évidemment un très très grand plaisir. Mais il est un autre plaisir pour les parents, un plaisir encore plus intense quand les enfants deviennent un peu plus grands, c'est de pouvoir discuter avec eux et surtout de voir que malgré les petites révoltes, les faux pas, de voir que ces enfants mettent en pratique les principes enseignés longuement et patiemment par les parents. Et moi, je me souviens, un de mes enfants, un petit bout de 7-8 ans à l'époque, m'a dit « Papa, moi, je pense que l'honnêteté, c'est très important. » Quand un petit enfant vous dit ça, quand il vous dit « je t'aime », c'est super. Quand il vous dit ça, je trouve que c'est l'extase. Il y a des choses qui sont passées. Alors j'espère qu'il ne me le disait pas pour faire le faillot. Mais on peut penser que Dieu prend plaisir aux mêmes choses. Il prend plaisir dans la communion de ses enfants avec lui, il prend plaisir à les voir s'épanouir, à les voir grandir, à les voir s'équilibrer dans la vie, il prend plaisir à les voir prendre le large avec lui, de prendre des risques pour lui dans la vie, à les voir être tout simplement des hommes et des femmes devant lui, et Dieu prend plaisir également à leur obéissance. Non pas une obéissance servile, mais une obéissance dans la confiance et sous la grâce et dans la liberté de l'esprit. Une obéissance quand même. Comme un père, Dieu prend plaisir à l'obéissance de ses enfants. Non, j'ai pas d'image. Faire plaisir à Dieu. On en parlait aussi dernièrement, mais on constate que l'être humain normalement constitué passe son temps dans la vie à essayer de plaire à tout le monde. Il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres à ce sport-là, mais on essaie toujours de plaire au plus de monde possible, à des gens qui pourraient nous aider à nous sentir bien, hein, qui nous renvoient une belle image. On essaye de plaire à ces gens-là, ou des gens peut-être qui pourraient nous aider dans notre ascension professionnelle et sociale. Et on a tous de bonnes raisons pour essayer de plaire à un grand nombre de personnes, tout simplement pour être tranquille, de ne pas faire de vagues, ou pour qu'ils nous renvoient une image positive de nous-mêmes, ce qui est toujours bon à prendre. Et c'est une recherche tellement naturelle qu'on n'a presque rien à dire, mais en même temps, on perçoit tous les risques de ce genre d'attitude si elle est constante. Alors qu'on est en plein effort de séduction pour plaire à tout le monde, on pressent la fadeur et la sécheresse d'une vie qui n'aurait que cela comme objectif. Plaire à tout le monde, c'est d'ailleurs impossible. Plaire à tout le monde, sauf chercher à plaire à Dieu. C'est pas très bien comment changer nos réflexes, comment arriver à penser au plaisir de Dieu dans sa vie. J'imagine que le Saint-Esprit, comme on en a parlé aussi hier, a sa part de travail à accomplir dans notre intérieur, mais pour nous et pour le mouvement, il s'agit de prier pour que chacun puisse retrouver la vitalité qui est en Dieu dans la recherche de son plaisir en nous, dans notre vie. Voilà un beau sujet de prière, la vision renouvelée, la vitalité retrouvée. Et pour conclure, je voudrais arriver à ce dernier point, celui qui me plaisait, c'est dans cette prière où il est dit « c'est Dieu qui vous fortifie pleinement ». Littéralement, Paul prie pour que les Colossiens soient puissantisé, c'est vraiment du littéral, en toute puissance, selon la force que Dieu lui donne. Puissantisé en toute puissance. Et le mot en grec, c'est le mot qui a donné dynamique. Dynamite. Ovomaltine, c'est de la dynamite. Mais puissantisé en toute puissance. Et on ajoute à la mesure de sa force glorieuse, cette puissance qui vient de Dieu, il s'agit de la puissance de la résurrection. Il s'agit de la puissance de la vie, cette même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui a vaincu la mort, est disponible en Jésus-Christ. C'est une puissance de vie. Et non seulement cette puissance vient de Dieu, mais elle est à la mesure de sa force, de sa kratos, à la mesure de sa force. Et quelqu'un faisait remarquer que lorsqu'un milliardaire donne de sa richesse, ça peut être très peu, il donne une partie de sa richesse, ça peut être très très peu, mais s'il donne selon sa richesse, à la mesure de sa richesse, c'est toujours beaucoup. Et Dieu donne, pas de sa puissance, à la mesure de sa force glorieuse. Cette puissance qu'il nous donne, c'est quelque chose d'énorme. Et en même temps, Dieu vous fortifiera pleinement, vous puissantisera. Sur mon ordinateur, ce verbe apparaît en rouge, ça n'existe pas. Vous puissantisera en toute puissance, mais ça c'est le texte original. C'est fort, c'est puissant, c'est gros. Et selon, on en a parlé, à la mesure de sa puissance, de sa force glorieuse, littéralement. Pourquoi ? Pour que vous puissiez tout supporter et que vous puissiez persévérer, littéralement, en vue d'une persévérance et une patience à toute épreuve. C'est extraordinaire. C'est pour ça que j'aime ce verset. Il y a un contraste saisissant. On a parlé de dynamisme, d'énergie. On parle maintenant de patience et de persévérance dans la foi, qui ne sont pas des vertus explosives. Et selon leur définition, la persévérance est le refus d'abandonner la course parce qu'elle serait trop longue ou trop difficile. La patience est la capacité à endurer les afflictions sans se plaindre. Eh bien, ces deux qualités sont les lieux de la manifestation de la puissance de Dieu. Ce n'est pas les trucs extraordinaires. Ce n'est pas les prodiges. Ce n'est pas je ne sais pas quoi. Certains groupes religieux font de cette puissance explosive leur fonds de commerce. La Bible parle d'expression de la puissance de Dieu dans la patience et la persévérance, simplement. Et il est possible d'accrocher le mot « joie » du verset 12, comme le fait la version du Semeur, à nos deux mots du verset 11. « La puissance de Dieu serait manifeste dans la persévérance et patience, vécues toutes deux dans la joie. » Ça, c'est puissant. Ça, c'est fort. Et donc, quoi qu'en disent certains qui ont fait de la puissance leur leitmotiv, cette dynamique de Dieu ne se manifeste pas dans des choses extraordinaires ou spectaculaires, mais elle le fait dans des choses simples, d'une vie de service, la persévérance et la patience joyeuse, une puissance qui se manifeste dans notre fragilité, une puissance qui se manifeste dans la fidélité de notre fragilité. C'est en plein cœur de la vie et de la vie chrétienne normale que la puissance de Dieu se manifeste au travers d'hommes et de femmes qui tiennent le coup, qui persévèrent, qui patientent en attendant l'héritage des saints dans la lumière, en attendant la consommation finale. Je termine en rappelant ces trois sujets de prière pour une vision spirituelle renouvelée par la recherche de la volonté de Dieu. Pour une vitalité spirituelle retrouvée par la recherche du plaisir de Dieu. Le tout dans la puissance de Dieu pour vivre ta vie dans la persévérance et la patience. Et on va faire quelque chose de radical. On va prier. Et j'invite Megan à s'avancer pour jouer de l'harpe. Et je vous invite, et je laisse le texte là, à écouter la harpe et à penser à ces sujets de... à ces sujets de prière qui restent affichés. Un petit temps de méditation personnelle, comme Mégane nous en a parlé dans la forêt quand elle était jeune, pour prier pour soi-même, pour les autres, pour ceux qui nous entourent, pour cette vision retrouvée, cette vitalité, et pour cette persévérance et patience dans la puissance de Dieu.